Ce shiur dédié pour Léa Badina Ruth et David Ben Dina Ruth qui trouvent rapidement leur zivouk et un mariage encore cette année. Amen.
Amen.
La question de Yosef.
Juste que maintenant, ma chérie est obligée de venir parce qu'il y a trop de choses dans le monde, tout ça.
Quoi ?
Il y a beaucoup de choses qui se passent d'événements.
Ouais. C'est, obligé. C'est, non, non, pas obligé.
Non, c'est ça.
C'est imminent.
Voilà, c'est imminent.
Absolument.
On peut dire aussi pendant la Shoah, les gens ils pouvaient dire il y a ma chère.
C'est aussi imminent.
Alors, mais à chaque fois,
tu sais, non. Attends, je vais t'expliquer d'abord. Restons calmes. De tout temps, Bnei Israël, Baruch Hashem, il y a une mitzvah. Pas de croire que Mashiach viendra, c'est insuffisant, d'attendre que Mashiach vienne. Qui dit qu'il croit, c'est insuffisant. C'est, si pas Yeshua, Vaya, Emunatra, Chosen Yeshua. Troisième question, quand on arrive à la Mabah, on nous pose, est-ce que tu as été metzapé la Geoula? Est-ce que tu as attendu la Geoula? Pas croire, attendre. Ça veut dire quoi, attendre? Attendre tout le monde, là, en France, ils attendent leur résultat pour le bac. Comment ils sont? Comme ça, faut être. Fois mille, le bac.
Ils font du bac. Ma chère, quand depuis vous avez 15 ans et on vous répète ça, et depuis que vous êtes né, vous avez 50 ans maintenant, il est toujours pas venu, il y a un problème.
Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, mon cher
ami.
Alors, j'ai compris la question, je suis en train de te répondre.
Alors,
il y a mitzvah de l'attendre. Tous les jours. Eh bien, qu'il tarde, on l'attend tous les jours. Maintenant, la différence entre nous et eux. Eux, ça veut dire le Rassag, Rabbi Sadagon, il a attendu de donner une date possible, c'est pas réalisé. Rachid a donné une date possible, c'est pas réalisé. Le Rambam donne une date possible. Le Rambam, Maïmonide, il dit comme ça. Il dit, personne ne peut connaître la date du Mashiach. Personne. Une page après, il dit, mais moi j'ai la date. Que j'ai reçue de mon père, qui a reçu de mon grand-père, etc. Et je te la dis maintenant. Et bien heureux que tu connais le secret. Et la date, elle est passée. Zlip ! On s'est fait avoir de nouveau. Et le Malbim m'a donné une date. Et Ron Shaya, il donne des dates sans cesse. Moi, je suis un nul, j'aurais rien du tout. Le Chafetz Raïm, tout le monde, Baruch Hashem, Ham Ben Zion a donné des dates. Ok, alors. Alors, où ta question ? La nuance, t'as une question au milieu ?
Oui, oui. Parce que comment le Rambam, il donne des dates et tout, et comment on peut faire confiance maintenant à Ben Zion qui a dit que vous le verrez de votre vie. C'est-à-dire, si le Rambam...
Le Rambam, pour lui, aucune couche. À mon avis, le Rambam, il explique. Il dit, personne ne peut donner une date. Pourquoi le Rassag, Rabbi Sadagon, il a donné une date? Il dit, c'était pour renforcer le peuple. Le peuple, il est en galoute, il souffre. Alors on dit, écoute, voilà, c'est très bientôt.
Mais tout ce qu'on a
dit... Attends. Laisse-moi expliquer. C'est pourquoi... Je vais arriver à tourner à notre époque, lentement. L'exposé durera 20 minutes. Non, même si tu n'es pas content, on fait la bagarre. D'accord? Laisse-moi terminer ce que j'ai à dire. C'est une question de compréhension, tu m'arrêtes. Si c'était pas d'accord, tu attends. Alors, le Rambam, lui, il ne croit pas à ces trucs-là. Il dit, personne ne peut savoir pourquoi il a écrit ça. Parce que personne ne peut savoir. Et pourquoi le Rassag il a donné? Il dit, le Rassag a donné pour encourager le peuple. Et moi, je donne maintenant la date. Hein, tu me dis, la page d'avant, tu me dis, personne ne peut savoir maintenant, tu me donnes la date. Les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils comprennent? Le Rambam, il a parlé aux gens intelligents, aux gens bêtes. Les gens intelligents, on leur dit, personne ne peut savoir jamais. Les gens bêtes, elles, je te donne une date. Histoire de les calmer un peu. Ok, il a fait comme tout le monde. On espère, on fait des calculs, c'est permis. On est interdit de dire une date, c'est ça ou rien. Ça, c'est interdit. Mais si c'est ça, parce que ce sont des dates propices, ce sont des dates propices. Aucun problème à le dire. Enfin, la différence entre nous et eux, pourquoi nous, oui, on s'excite, on doit s'exciter. Parce qu'eux vivaient, il y a encore un siècle, en exil, il n'y a rien qui se passe. Rien. On est en exil, on est en exil, on est en exil, on souffre. Rien, et encore rien. 1800 ans. Quel courage ils ont eu.
Ça peut décourager, hein.
C'était très décourageant. Très décourageant, et beaucoup ont été découragés. Mais aujourd'hui, ça va pas. Mais c'est extraordinaire. Il faut être aveugle pour pas voir. Aveugle. Qu'est-ce qu'il dit à Torah? Elle dit, Dieu vous a chassé de la terre d'Israël. Vous êtes mis dans tous les peuples. Et tous les matins, on dit la prière. Si même tu seras au bout des cieux, là-bas Dieu ira te reprendre, t'armera dans la terre d'Israël. Partout de toute la terre, on nous ramène en terre d'Israël. C'est marqué dans la Torah. Pourquoi on doit répéter ça tous les matins? Les gens n'y croyaient plus. Mais c'est fini. Je crois qu'aujourd'hui, la majorité des Juifs sont en terre d'Israël. Alors on y est. Regarde ce qu'il y avait ici, la Ramoth. Il y a 50 ans, il n'y avait rien. Pas une maison. Pas une. Regarde. Une ville de Torah. Mais c'est extraordinaire. Donc retour physique des joueurs en terre d'Israël. L'Agmara dans traité Sanhedrin page 98a dit « Adir Rabbi Abba, tu n'as pas de preuve plus grande de la fin que ce verset de Yeheskel. » Il faut lire Yeheskel 36, tu vas le lire. C'est Yeheskel 36, c'est extraordinaire, tu lis, ça a été écrit il y a 2500 ans, tu lis l'actualité. Dieu va ramener en terre d'Israël, vous rebâtirez les villes, vous allez défricher le désert, le désert va donner des fruits, il y aura beaucoup de fruits, ce sera abondant, etc. Maman, je crois en train de vivre. Bnei Brak, c'était la ville de Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Ben, c'est Bnei Brak, t'as une ville entière, tous les patelins là, tout ça qui... Au nom des villes d'antan, c'est extraordinaire, qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça il y a encore 100 ans, il y a 150 ans, il n'y avait rien. Le Ramban Nachmanide, il a été chassé, il a eu donc la disputation de Barcelone. C'est comme ça en bon français, il y a des disputations avec un juif qui s'est converti au christianisme, et devant le roi. Et le Ramban a dit, je suis prêt à me bagarrer, à me faire avec lui. À la condition que je peux dire tout ce que je veux. Sur la chrétienté, tout ça, le roi a dit, tu peux tout dire. Il leur a flanqué une de ces années. Il a fait de la chrétienté et de la gnognotte. C'était tellement insupportable que le roi a dit, je suis désolé, mais on me fait trop pression, tu dois t'expulser du pays. Alors il est parti en terre d'Israël, il est venu à Yerushalayim, il est arrivé ici, il n'y avait pas Minyan. À Yom Kippour, il a dû amener des gens, quelques juifs teinturiers de Hevron. Et pas Minyan à Yerushalayim. Rien, mort. Qui aurait cru, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les gens chantaient au mariage, « Odi Shama, Bayroda Versot Yerushalayim. » Encore, on entendra dans dans les montagnes de Yehuda et les quartiers de Jérusalem, « Kol Sason, Kol Simcha. » Il y a encore le voix de Hatan, la voix de la Kala. On n'y croyait plus. T'as un jour sans mariage ici, sans 20 mariages ici à Yerushalayim, à part les jours où c'est interdit. Baruch HaShem, pas 20 mariages, 100 mariages. Kol Sason, Kol Simcha, Kol Hatan, Kol Kala, plein. C'est une prophétie réalisée, c'est tout nouveau. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Retour en terre d'Israël physique, la terre qui donne ses fruits. Aujourd'hui, t'as aucun pays au monde, aucun, où la verdure gagne sur le désert. Partout le désert gagne sur la verdure, à part Israël. La verdure gagne sur le désert. Seul pays au monde. On exporte des fruits dans le monde entier, les bons fruits. Les bons fruits sont exportés. Nous, on ne laisse que les restes ici en terme. Les bons fruits sont exportés. Les agronomes israéliens dans le monde entier vivant. C'est des grands spécialistes. Regarde, du désert, on a fait un jardin potager. Extraordinaire. Il y avait quoi ici? Il n'y avait rien. Deuxième signe. Troisième signe. La Torah. Depuis qu'on est parti en Galoute, il n'y a pas eu de centre de Torah en Israël aussi grand que ce qu'il y a maintenant. Bli Ayin Hara. Mir, ça change sans cesse. C'était 8000. Non, c'était 6000. Maintenant, c'est parti 7000. 8000, 9000 élèves. Une yeshiva, 9000 élèves. On parle de la grande yeshiva de Vologine, il y avait 120 élèves, il y a deux siècles. Radin, peut-être 60 élèves. 9000 élèves. Ponovitch, 3-4000 élèves. Et Shlomo Yosef, 30 élèves. Mais qui valent comme des milliers. Avec la rabbanim, l'avrechim 60. Baruch HaShem. Et jamais le monde n'a été aussi florissant. Tu sais, tu vas les livres. Tous les jours, en Israël, tu as deux Torah qui sont édités. Au moins deux livres de Torah. C'est fantastique. Tous les jours. Une floraison. C'est vrai qu'à la fin des temps, on demandera à chaque juif quel livre tu as écrit. Chacun aura son livre qu'il aura écrit. On est en train de le vivre. Quatrièmement, de l'As Benon de Liszt, le plus important, c'est marqué à la fin des temps, c'est marqué la Torah. Dans Devarim, chapitre 30, le Rambam écrit dans le Chot Tshuva, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël font Tshuva. Et immédiatement, ils sont sauvés. Il n'y a jamais eu de l'histoire un mouvement de Tshuva pareil. Si ce n'est avec Mordechai Esther, à Shushan, à Bira, il y a 2500 ans, à cause du décret de Haman. Mais là, une Tshuva volontaire, c'est anormal. Chaque Baal Tshuva qui arrive ici, c'est un miracle. On a des miracles tous les jours, des gens d'où ils viennent, pas perpète les oies, la planète Mars, ils arrivent. Ils font Tshuva. Comment ça se fait? Tout à coup comme ça, rien qui se passe. La Shoah, tu me dis. Oui, la Shoah, c'est clair, ça fait partie. C'est marqué qu'avant ma chère vienne, il y aura des malheurs terribles. Daniel, comment c'est Daniel? Le dernier chapitre de Daniel, c'est marqué en ce temps-là, ce sera le temps de la rédemption, arrivera un malheur au peuple qu'il n'y aurait pas eu durant toute l'histoire. Une détresse qu'il n'y aurait pas eu telle que cette détresse durant toute l'histoire. La Shoah?
L'Égypte, c'était pire.
Non, c'était pas pire que la Shoah, l'Égypte. Jamais de la vie. Jamais, jamais. On dit, Pharaon, il égorgeait 300 enfants pour baigner dans leur sang une fois par jour. Ok, 300 enfants. Mais Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz, c'était 17 000 juifs par jour. Rien que Auschwitz. Sans parler de Treblinka, Dachau, etc. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Continue. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a encore? Ishmaël. C'est vrai qu'on a mis de Rachim, quand le Mashiach revienne, Ishmaël tombe. Il y a 50 ans, il y avait la Ligue arabe, président Nasser, un gouverneur puissant, charismatique. 8 pays arabes viennent en guerre contre nous, la guerre des 6 jours. Des superpuissances. L'Égypte, la Jordanie était super bien armée par les Anglais, entraînée par les Anglais. La Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Les Tunisiens ici, ils ont envoyé un peloton de 100 soldats. Tous contre nous. Qu'est-ce qui reste d'eux? L'Égypte qui était le centre, le maître, a tatiné. Ils sont nuls aujourd'hui, plus rien. L'Irak, Saddam Hussein, l'Arabie Saoudite, il a dit, depuis Nebuchadnezzar, il n'y a pas eu de tyran, de chef en Ishmaël aussi fort que Saddam Hussein. C'était, à mon avis, le Gilgul de Nebuchadnezzar, Viennent les deux pères et fils Bush, clac, liquidé. L'Irak aujourd'hui, c'est rien. Gamarno, t'as 20 groupes rebelles en train de se battre les uns contre les autres. Les Kurdes, le Daesh, les Iraniens, les chiites, les sunnites, les Alaouites, les machins. Il reste la Syrie. Avec le père Hafez el-Assad et Marchmo Bachar el-Assad, son fils. Qu'est-ce qu'il y a de la Syrie? Il y a encore 5 ans, c'est une superpuissance. Ratatinée. La Jordanie, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? L'Arabie Saoudite, des nuls.
On ne va pas dire qu'il tombe, le monde arabe.
Mais il est tombé.
Non, mais d'accord, mais
c'est ça. C'est-à-dire que 4-5 millions de migrants qui partent comme ça en Europe.
Mais justement, c'est encore pire. Ils vont conquérir d'autres pays.
Ouais, mais c'est pas une conquête arabe, c'est une conquête de réfugiés, c'est rien. C'est pas. Quand on parle de grand. C'est une malchoute, une royauté puissante. C'est ça, être fort. Rien. Au contraire, ils sont haïs par tout le monde, les terroristes, tout ça. Il y a un journaliste palestinien, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Dans mes cours sur les Havas, j'ai cité là-bas.
Depuis l'éclatement de l'intifada des couteaux, je traverse une déprime intellectuelle profonde. Non pas une dépression psychologique, mais une remise en question de ma motivation, ainsi que de mes finalités. Je ne chôme pas pour autant, essayant de me trouver au plus près des milieux de poignardeurs pour comprendre ce qui les pousse à agir, des autorités de l'autorité palestinienne pour observer leurs réactions, des sympathisants islamistes connus en Cisjordanie, ainsi que des familles des terroristes assassins, afin de mesurer les intentions des foules lors des enterrements, ce qui m'aide à me figurer la voie vers laquelle se dirige la cause palestinienne. Une cause pour laquelle j'avais décidé de consacrer mon existence, allant jusqu'à suivre Yasser Arafat au Liban, puis dans son exil tunisien, avant de le quitter alors qu'il occupait la Moukata de Ramallah, horrifié par sa pédophilie étalée aux yeux de tous et par ses agissements qui nous conduisaient droit à l'apocalypse plutôt qu'à la paix. Cette semaine, alors que j'assistais aux obsèques d'un homme qui avait tué une jeune Israélienne, j'ai entendu les participants hurler qu'il était désormais temps d'utiliser des armes automatiques pour éliminer les Juifs. Je n'ai pas discerné la moindre expression de regret ou d'humanité, la moindre trace d'intelligence ou de désir construit d'édifier l'État de Palestine. Je n'ai vu que bave et rage, que besoin de tuer. En fermant les yeux, j'avais l'impression d'être entouré de morts vivants en train d'avancer, tels qu'on les voit dans les films d'horreur. Ils ne cherchent nullement à remporter un quelconque combat, mais uniquement à tuer les ennemis et à mourir ensuite pour atteindre le ciel et les vierges qui s'y prélassent en les attendant. Ils en sont à ce point persuadés qu'ils le crient en cœur à la moindre occasion. Ils ne sont responsables de rien, ils sont irresponsables. La vie terrestre n'a aucune valeur à leurs yeux. La mépriser, c'est se rapprocher d'Allah. Tout est faute de l'autre. et l'autre le plus proche est l'Israélien. Donc ils se jettent sur les Israéliens pour les tuer. La situation que j'ai décrite en Cisjordanie est la même que celle qui ravage actuellement la presque totalité du monde musulman. Or, face à une violence inouïe qui les effraie, les Occidentaux ont perdu leur repère et partant l'énergie nécessaire à se protéger. Au prétexte d'éviter l'islamophobie et l'amalgame, ils ont abandonné leur sens critique et ne discernent plus le phénomène abominable qui se déroule pourtant sous leurs yeux. C'est donc moi, un arabe, pétri de honte et de repentir, pour sauver l'honneur de quelques-uns, qui vais leur proposer un petit récapitulatif. Actuellement, sur l'ensemble du globe, de manière systématique et au nom de l'islam, seuls des musulmans participent à des guerres. Seuls des musulmans tranchent des têtes. Seuls des musulmans les noient. Seuls les musulmans pendent leurs détracteurs. Seuls des musulmans procèdent à leur pendaison par étouffement. Seuls des musulmans condamnent des gens à la décapitation par le sabre. Seuls des musulmans procèdent à la crucifixion. Seuls des musulmans précipitent des condamnés depuis le toit des immeubles. Seuls des musulmans condamnent les homosexuels à mort. Seuls des musulmans ont recours à la lapidation. Seuls des musulmans réalisent l'ablation punitive de certaines parties du corps. Seuls des musulmans condamnent des gens à recevoir des centaines de coups de fouet. Seuls des musulmans pratiquent le terrorisme, tant dans leur région que dans leur pays étranger. Seuls des musulmans assassinent sans discernement des êtres humains, sans les avoir identifiés autrement que par leur supposée identité nationale ou religieuse. Seuls des musulmans pratiquent des assassinats suicides. Seuls des musulmans pratiquent des assassinats à la voiture tueuse. Seuls des musulmans assassinent des journalistes dans leur rédaction. Seuls des musulmans assassinent des gens attablés dans les restaurants. Seuls des musulmans assassinent des gens assistant à des spectacles. Seuls des musulmans assassinent des juifs, y compris des enfants dans des écoles. Seuls des musulmans assassinent des juifs dans des supermarchés cachers. Seuls des musulmans assassinent des innocents dans des gares et des stations de métro. Seuls des musulmans assassinent des juifs dans les musées. Seuls des musulmans ont assassiné 2500 innocents n'ayant jamais offensé l'islam le 11 septembre 2001 aux États-Unis, en une seule journée. Seuls les musulmans détruisent des lieux de culte d'autres religions. Seuls des musulmans détruisent des vestiges historiques appartenant au patrimoine de l'humanité. Seuls des musulmans invoquent le nom de Dieu lorsqu'ils assassinent. Seuls des musulmans œuvrent en faveur d'une doctrine visant à soumettre le monde à leurs croyances. Seuls des autorités d'État et d'entités étatiques musulmans honorent les terroristes pour les assassinats qu'ils ont commis. Seuls les musulmans persécutent, chassent et massacrent les minorités qui vivent parmi eux. Seuls des musulmans pratiquent le viol de masse. Seuls des musulmans pratiquent le crime d'honneur. Seuls des musulmans punissent les femmes qui montrent leur visage. Si j'ai mentionné le moindre crime exclusivement musulman par erreur ou pratiqué le moindre amalgame, je vous y invite à le faire savoir à la rédaction et je m'engage à apporter les corrections nécessaires. Si vous assimilez le fait d'établir la liste des crimes exclusivement pratiqués par des musulmans à de l'islamophobie, c'est que vous entendez museler l'expression de la réalité. Ceux qui prétendent qu'une religion dont les membres s'adonnent au genre de crimes figurant sur cette liste est une religion de paix devraient être invités à s'expliquer. En ce qui me concerne, je crois que le monde serait largement plus viable et paisible si cette croyance n'existait pas et qu'elle est un fléau pour les êtres humains et les nations, dont la mienne, une tache de barbarie à la surface de la terre. J'ai honte.
Il a écrit un article. Il amène 30-40 rubriques, phrases comme ça. Qui dans le monde coupe les têtes? Qui dans le monde tue des gens dans des cafés au nom de leur religion? Il met une liste comme ça. À la fin, il dit, c'était un pro-palestinien. C'est un pro-palestinien, d'accord? Il dit, j'ai honte. J'ai honte. C'est ça la fin du monde arabe. Rien. La nullité. Tuer.
Ok,
minorité. Tout le monde chiite, c'est eux, hein, c'est ça. Les sunnites, moins. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous aiment? Quoi? L'Arabie Saoudite, maintenant, il y a copains avec nous, l'Arabie Saoudite. C'est eux qui finançaient le Hamas, c'est eux qui finançaient les terroristes. Alors, finance. Fin du monde arabe. Quand? J'ai une date. Elle se trouve dans un des cours que j'ai donné, vous la connaissez. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Allez, je vous la dis, on a le temps. Hein?
Fin 2018.
Pas fin 2018. 2018. Je ne sais pas quand ça sera. La deadline. Attends, je peux me tromper. Je suis toujours trompé. Mais ça concorde. Le Midrash dit, l'année où ma chère se dévoile, c'est Yalkut Shimoni, chapitre 499. Adé Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile. Tous les peuples de la terre sont en tension les uns avec les autres. Aujourd'hui, tu n'as pas un endroit où tu n'as pas les tensions. La Corée. On frôle la guerre atomique avec lui. La mer de Chine. Le Yémen. La Somalie. La Syrie. Dans un de mes cours là-bas, ça s'appelle une odeur de guerre mondiale. De Troisième Guerre mondiale, là-bas je monte un graphique, les différents groupements qui sont en guerre en Syrie. Tu as un méli-mélo incompréhensible. Tu as 15 groupements d'un côté, 15 de l'autre, avec des flèches. Qui est contre qui? Tout le monde est là-bas. On ne sait pas qui pour qui. Personne. Tu as les rebelles, tu as les machins, tu as les Français qui sont avec les rues. Incompréhensible. L'Ukraine. La tension entre Poutine. L'Amérique, elle a voté 87, le Sénat, 87 voix contre 2, des sanctions contre la Russie. Ça chauffe. Poutine, il dit, attention. Attention. Il a dit à certains journalistes, les Américains rapprochent leurs missiles. D'abord, ils pouvaient rentrer que 200 km, maintenant 500, maintenant 1000 km. Attention. Première fois de l'histoire, depuis la guerre de Corée, je crois, où des avions américains ont descendu un avion ennemi. Syrien. L'utilisation du chimique par Bachar el-Assad, le Daesh, Hezbollah, on va arriver à Hezbollah. Bon, donc tension dans le monde entier. Le roi de Perse est en tension avec le roi d'Arabie. Hachem a fait un grand miracle. Quand Mohammed est décédé, il n'y avait que des filles. Il faut un homme pour la continuation. Qui va être le continuateur de Mohammed? Marloké, divergence d'opinion. Avec Abou Bakr, son compagnon de combat. Non, Ali, son gendre. Depuis, il y a deux groupes chez les musulmans, les chiites et les sunnites. Et ils se haïssent. Un jour, je crois que c'est les sunnites ont tué le cousin chiite et ils l'ont pas vengé. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font une fête où ils se lacèrent. J'ai un ami irakien, de réfugié irakien, il m'a dit, il a vu quelqu'un qui il s'est mis des hameçons dans la bouche, comme ça, il les plante dans la joue, comme ça, et il tire une charrette. Il transpire, il souffre. Mais si quelqu'un ose rigoler, on le coupe en petits morceaux. Pourquoi? Il se flagelle avec des sabres, du sang partout. Pourquoi? On n'a pas vengé la mort du cousin. Sans commentaire. Ils se haïssent. Au point tel que les sunnites sont prêts à faire la paix avec nous. Notre ami l'État sioniste, Friedman, qu'est-ce qu'il est exactement? Un conseiller de... Hein?
L'ambassadeur
des États-Unis en Israël. Il est venu avec Trump à Riyad. Comment un pied juif peut-il fouler la terre sainte arabe? Ah, ils ont mis des tapis. Pour pas qu'il pose son pied par terre. Des tapis, la voiture, qu'il n'y ait pas de contact. Mais contre les chiites, ils font la paix avec nous. Et on leur donne des renseignements et de l'aide militaire, absolument. Contre les chiites. Alors continue le Midrash qui dit, le roi de Perse est en guerre, est en tension contre le roi d'Arabie. Le roi de Perse, c'est l'Iran, chiite. Contre le roi d'Arabie, sunnite. Trump, il est en train de donner 400 milliards d'armes, pour 400 milliards de dollars d'armes Arabie Saoudite pour l'armée. Contre qui? Contre l'Iran. Parce que l'Iran et la Russie, ça va ensemble. T'as la Corée, la Chine, la Russie, l'Iran, c'est un bloc. Et maintenant, la Turquie s'y met avec eux et le Qatar. Pourquoi dernièrement, ils ont coupé tous les contacts avec le Qatar? Le Qatar s'est branché plus avec l'Iran. Donc Trump, il met, hop, on les coupe. Deux blocs. Donc, tension entre le roi de Perse et le roi d'Arabie. va le roi d'Arabie prendre conseil chez Edom. Edom, c'est l'Occident. Trump vient là-bas. Allez, tric, 400 milliards d'armes. Qu'est-ce qu'il va faire le roi de Perse? Il va attendre. Revient le roi de Perse. Il va attendre quoi? Que l'Arabie Saoudite soit une grande armée comme ça pour le défoncer. Revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Et tous les peuples de la terre sont terrorisés, font du bruit, tombent sur leur face, sont pris de contractions comme une femme qui accouche. Et bien Israël sont terrorisés, font du bruit. Et disent « Oh, allez où venir, où allez où venir ?» Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des centaines de cellules dormantes iraniennes dans le monde entier. Trump, il a dit, c'est le centre du terrorisme mondial, l'Iran. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en France? Impossible. Ils ont des centaines, rien qu'en France, de cellules dormantes. On vit en Israël. T'es fou? Là-bas, il y a des missiles partout. Le Hezbollah du Nord, le Hamas du Sud. On va où? Bloqué. Acapulco. C'est pas mieux. Dieu leur dit, mes enfants, pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, le temps de Géoula est arrivé. Ça correspond à la réalité. Je continue. Sanhedrin 98b, Rachidi, Gog ou Magog, la Perse envahit l'Irak. Et de là-bas, ils viennent et conquissent Israël. Elle est où la Perse aujourd'hui? Elle est en Irak. Et maintenant, elle est à 3 km de la frontière israélienne au Golan. Les armées iraniennes. Ça, c'est en Syrie, Golan. Au Liban, Hezbollah. Les bonnes troupes de Hezbollah qui étaient en Syrie ont été amenées dernièrement à la frontière israélienne. À l'armée, on dit à tout le monde, cet été, il y a une guerre au nord. Ça, c'est Rachidi, ils vont venir, les Iraniens vont venir ici. Ahmadinejad, il a dit, on viendra à pied.
Ils ne sont jamais venus, les Iraniens?
Jamais.
Histoire,
non, jamais. Je ne connais pas de contexte de un peut-être du temps de Koresh. Le deuxième temple a été construit sous l'Empire perse. Mais ce n'est pas Rachidi Gog ou Magog. Qui raconte ça? Il explique les paroles de Rabbi Yosef ben Kisma, qui vivait il y a 2000 ans, bien après l'Empire perse. Depuis, il n'y a jamais eu des Perses ici.
Vous dites le roi de Perse, il ne va pas se laisser faire. C'est ça, c'est un tyran, son armée qui vient, là, par rapport à l'Arabie Saoudite?
Ouais, qu'il y a des tensions entre les deux. C'est marqué dans le traité Yoma, page 10. À la fin des temps, il y aura une guerre entre Rome et la Perse. Rome, c'est l'Amérique. La Perse, c'est la Perse. Et on y est. La guerre y est déjà. C'est une guerre économique, c'est une guerre politique, et peut-être bientôt une guerre physique. Mais la guerre y est, c'est clair. Aujourd'hui, hier, le Gondivina qui dit que lorsque, merci, que peu avant un Géoula, les Russes vont conquérir la Crimée. Ça y est, c'est bon. Ouais, il y a 2-3 ans. Suite et fin. Et là, on va s'exciter. En 1517 de l'ère chrétienne, les Turcs conquissent Jérusalem. Il reste là-bas exactement 8 yovlot, 8 jubilés, 400 ans, 4 fois 50, 8 fois 50 ans. En 1917, le général Allenby, anglais, rentre en triomphe à Jérusalem. Mon grand-père était petit, il avait 7 ans, il a regardé. Il était présent lorsqu'il est rentré sur son cheval, Allenby. C'était le 9e jubilé, qui a duré 50 ans, jusqu'en 67. 17, 67, 50 ans, où les Juifs ont conquis Jérusalem, libéré Jérusalem. Et on est aujourd'hui exactement 50 ans après. Il y a 50 ans, le mur des lamentations a été libéré. Et maintenant, hier a commencé la guerre pour le mur des lamentations. L'État d'Israël a accepté de mettre un certain terrain mixte.
Non, il a refusé Benjamin
Netanyahu. Attends. À la demande des réformistes et des libéraux. Il a accepté. Puis, après, il a dit, non, je change d'avis. Refusé. Pendant 50 ans, personne ne parle. Bibi a dit, ok, on laisse comme c'était. Status quo. Hier, d'urgence, les représentants du AIPAC, AIPAC, c'est American Israel Pay. Non. Bon, j'ai oublié. Le comité. Comité d'action Israël-Américain pour Israël. Non, le lobby, bon, AIPAC, j'ai oublié le truc. Le AIPAC, le plus grand, le lobby américain le plus important en Amérique, qui aide Israël avec des centaines de millions, peut-être de milliards de dollars. Ils arrivent hier, jeudi matin, urgence en réunion avec Bibi Netanyahu, qui va à la réunion, on ne connaît pas encore le résultat des courses. Pourquoi ? Comment vous osez ? Alors, le type, le Michael Segal, le responsable de ce AIPAC, il dit comme ça. Il dit, l'État d'Israël n'est pas représentatif du peuple juif. Vous mettez en danger le peuple juif. Vous mettez en danger le peuple juif. Quoi ? Parce qu'on refuse qu'il y ait des mélanges hommes et femmes au Kotel ? Pourquoi tu réveilles maintenant ? C'est 50 ans que c'est comme ça. Qu'est-ce que tu réveilles maintenant ? Et est-ce qu'on est juif dans les mosquées des régions mixtes ? Et dans les églises ? Dans toutes les religions normaux, c'est séparé. Là aussi. Et c'est notre Torah. Eux, ils disent, vous battez, vous amenez la disparition du peuple. Je ne crois pas que c'est la situation qu'il a dit, un truc du genre comme ça. Vous mettez en danger la survie du peuple juif. Comme ça, il dit à nous. Mais qui vous êtes, vous ? Les réformistes, vous êtes des juifs, Barlal ? Peut-être, la moitié. Ceux qui ont une mère goy, convertie, par un tribunal réformiste, elle est goy. Donc t'es goy, ta mère est goy, peut-être ton père est juif. Peut-être t'es juif aussi, c'est tout de moitié-moitié. Est-ce qu'on connaît un juif arrière-petit-fils d'un réformiste, d'un réformé ? Ils sont tous goy. Et s'il y en a un, c'est un miracle. Et s'il est, alors son fils sera déjà plus. Alors c'est qui la fin du peuple juif ? Lieberman, c'est pas un religieux. Le ministre de la Défense israélienne, il est parti en Amérique quelques mois, il est revenu. Le plus grand danger du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. Ce n'est pas Hezbollah, ce n'est pas l'Iran, c'est l'assimilation qui est en Amérique. Qui est responsable de l'assimilation ? Les orthodoxes ? Il y a une étude qui a été faite, je vous l'ai montré déjà, Harvard en 2006. Sur 100 ans, ils ont pris 5 communautés américaines. Ils ont fait une projection sur 100 ans. Les orthodoxes, tu prends 100 orthodoxes, dans 100 ans, ils sont 3400. Tu prends des juifs non religieux, 100, dans 100 ans, ils sont 7. Même pas 100. Oh ben, il reste le même chiffre. Rien. Ils disparaissent. Alors c'est vous. Qui met en danger le peuple d'Israël ? C'est vous. Et vous nous accusez, nous ? Il y a une guerre maintenant, et c'est intéressant que c'est 50 ans exactement après. Moi je pense que ça rentre encore en plus pour un argument encore. On verra, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. En plus. J'ai pas tout dit, mais je crois que ça suffit pour le moment. Je t'écoute maintenant.
Non, mais. Ah. Ça c'est, on va le nier. Mais il y a 2000 ans, depuis 2000 ans, on dit que ma chère, il arrive. Ouais. Pourquoi les rabbinim, ils disaient que ma chère, il arrive, s'ils voyaient aucun signe de ma chère ?
Eux, ils avaient des calculs. Il y a des chiffres dans Daniel, il y a des choses. Dans Daniel, il y a des chiffres, des choses qu'on a écrites. Ah, ils tentaient leur chance de voir, c'est comme ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça.
Il n'y a aucun signe, rien ne se passe.
Alors, rien ne se passait. C'est marqué « Tout à coup viendra celui que vous attendez ». C'est marqué. Ce sera très, 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 très subi. C'est marqué « Tout à coup viendra ». Pitom yavo. Pitom il viendra. Soudain il viendra. Tout à coup. Ça sera soudain. C'est évident. Et rapide. Comme un accouchement. Tu as encore une femme qui accouche, n'est-ce pas, quand tu m'arrives dans ta chaîne. Entre avant et après, ça prend une demi-seconde. Avant, il y a toi, il y a elle, il n'y a personne. Tout à coup, en une seconde, tu n'y as pas. Mais une demi-seconde. Et tout change. Tout change, tout change, tout change. En une seconde, tout change. C'est ça, ma chère. Sincèrement, sous peu. C'est bon ? Maintenant, si je me trompe, c'est pas maintenant. Alors, dans un an, deux ans, trois, on attendra. Ça donne. Mais t'as tellement de signes maintenant qui convergent, c'est impossible de ne pas voir que ça. On est en plein. Il faut vraiment être aveugle.
Hein ? On n'y croit plus à la fin.
Ah, il faut être un peu plus patient. Comprendre qu'on parle maintenant. Lorsque le monde était créé, c'est Majid Bereshit, Bara Elohim. Et l'Esprit de Dieu plane sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu, Chazal dit, c'est le nom du Mashiach. Depuis que le monde est créé, on attend le Mashiach. Toi, tu viens, j'ai 18 ans, j'attends déjà beaucoup. Ça va.
Non, je vous dirais, on pense plus qu'il va arriver à 6 000 ans, quoi, à la date limite.
Mais regarde ce qui se passe autour de toi. Dans les écrits, c'est vrai qu'il doit venir bien avant. Il y a l'époque messianique ici sur Terre, après la résurrection des morts ici sur Terre. C'est tout un processus qu'il doit avoir ici sur Terre. Donc, regarde ce qui se passe. C'est obvious, c'est, comment on dit ça, c'est évident, c'est tellement évident. Rien que la tchouva, c'est déjà énorme, c'est un miracle. Chaque type qui fait tchouva, c'est un miracle extraordinaire. Qui fait tchouva? Depuis quand les gens font tchouva? Il y a 50 ans, quelqu'un, on connaît un qui a fait tchouva, 0, 0, 0, 0. Et tout d'un coup, des millions qui reviennent. Regarde, la France est un pays plein de tchouva, par exemple. Rien que ça, mais tout ce que j'ai dit maintenant, c'est pas suffisant. La Shoah, la Shoah. Tu vois que tout ça commence après la Shoah. C'est clair que c'est un détonateur de beaucoup de choses. C'est clair. Les grands, le patron avant tout, comment il s'appelait? Rav Herman. Il a dit la Shoah fait gagner 200 ans d'histoire. Rapprochez le Machiav de 200 ans.
Il devrait déjà arriver, c'est écrit qu'il arrive 200 ans.
Mais il arrive! Il arrive! Il arrive! Il arrive! He's coming! Simplement avant qu'il soit dehors. Quand la femme va accoucher, si c'est avant que Machar arrive, ce que je ne pense pas, ça passera encore. Après, quand Machar arrive, elles accoucheraient facilement. Mais pour le moment, elles difficilement. Comment ça se passe? On voit déjà la tête sortir. Attends, la femme, elle doit pousser. La sage-femme nous dit, allez-y, c'est la dernière contraction. Chaque contraction, c'est inimaginable de douleur. Inimaginable. Je n'ai pas vécu, mais on m'a raconté. Alors, la sage-femme nous dit, allez-y, poussez, c'est la dernière. Elle doit pousser, c'est la dernière, allez-y. Elle pousse. Le gosse, il n'est pas sorti. Allez, 30 secondes de répit, comme 15 secondes de répit, encore la contraction, ça monte. Allez-y, poussez, c'est la dernière, allez-y. Des fois, une heure comme ça. J'ai raconté ça en conférence, une dame m'a dit, on dirait que c'est vous-même qui avez accouché, d'accord. Elle a dit que c'est comme ça, la dernière, ok, on y est maintenant. Ça, je parle d'accouchement, ça dure une heure. L'accouchement, il a commencé il y a 100 ans. Il y a 100 ans.
Ouais,
il y a 100 ans.
Il y a 2000 ans, non?
Non. Le Rav Esraim, il a dit que durant la Première Guerre mondiale, les réveils machères ont commencé. Les douleurs d'enfants de l'émission ont commencé. Et c'est intéressant que Trump a demandé. Non, Macron a demandé à Trump de venir le 14 juillet à Paris pour fêter les 100 ans de l'entrée d'Amérique en guerre. Et boum! 100 ans plus tard, c'est dingue. Alors je dis une heure, moi je dis. Sur l'histoire, une heure, 100 ans, ben, Ezrat Hashem. Je peux me tromper, c'est rien, c'est des signes bidons, ça. Mais ça a encore un signe en plus.
Entrer en guerre contre qui?
Contre l'Allemagne.
Ah.
C'est bon? Convaincu? Ah, ne me fais pas, oui, peut-être. Je t'ai amené 10 choses, maintenant. Il y en a encore, il y en a encore, il n'y a plus le temps. Bah, ou Khadon, hein, il y a plus le temps.